Je vais maintenant vous présenter Lucie Taïeb, qui est poète et traductrice, agrégée d'allemand, maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Rennes. Elle est l'auteur d'une thèse intitulée « Territoire de mémoire, l'écriture poétique à l'épreuve de la violence historique », parue en 2012, de « Tout aura brûlé, forme fragmentée où se croisent des voix qui s'adressent à un absent », accompagnée d'illustrations de Sidonie Mangin, parue en 2013. Elle a aussi publié des poèmes aux éditions Lanskin, « La retenue » en 2015, « Depuis distance » en 2017. Récit d'une rupture immobile et invisible qui a donné lieu à un vidéo-poème, justement, où l'on entend sa propre voix, puisqu'elle se livre souvent à des lectures et des performances. De Safe, son roman, paru en 2016 aux éditions de l'Ogre, je citerai cette phrase qui me semble éloquente autant qu'intrigante. Au commencement, elle avait choisi de traduire pour cesser d'avoir peur. Son œuvre touche ainsi à la traduction, notamment d'Heidi Pataki et de Ernst Jandl, qu'elle a traduit sous l'intitulé qui est très difficile à prononcer, Groite et Dauche, dont vous apprécierez la métathèse. Elle va précisément aborder cette question de la traduction et de la transmission de la poésie expérimentale. Je lui laisse la parole.
Et aussi un grand merci pour cette invitation. Alors, je vais aujourd'hui parler de ma pratique, précisément, hein, de la traduction de poésie expérimentale. Et en parlant de ma pratique, j'aborderai aussi la question de savoir comment on traduit un texte avec l'idée que ce texte, qu'une des manières de faire connaître ce texte, ça va être le moment de la lecture publique, que ce soit en librairie ou que ce soit dans d'autres lieux plus institutionnels ou moins. Et la question que je poserai, c'est pas tant peut-on traduire et transmettre que de savoir ce qu'on traduit d'un texte. Et partant ce que l'on transmet d'un poème, qu'il soit ou non expérimental, quand on le traduit. Sur cette précision, qu'il soit ou non expérimental, je pourrais revenir, mais je ne pense pas qu'il y ait de différence fondamentale, en fait, ici, entre les questions de traduction de poésie expérimentale ou dite expérimentale et la traduction de poésie en général. Alors, je vais commencer par quelques réflexions autour de la notion de mimésis. En effet, cette notion rapportée à la traduction me semble féconde parce qu'elle permet de dessiner un champ de tension entre la mimésis comme copie ou reproduction d'un original et la mimésis entendue comme reproduction non pas de la chose créée, donc ici en l'occurrence du poème, mais comme geste créateur, donc reproduction d'un geste créateur. Si je considère que mon travail, c'est de reproduire la chose créée en la transposant, donc dans ce cas d'espèce, dans une autre langue, il me faut l'observer le plus finement possible, essayer d'en dégager tous les sens, toutes les polysémies, les jeux langagiers, les singularités formelles. Je vais lire des commentaires, des exégèses, je vais partir en quête de citations cachées, recomposer un contexte d'écriture et de réception. Mais aussi, je serai attentive aux sonorités, j'essaierai de reproduire ou du moins de retrouver des allitérations là où l'original en présente. Et ce à quoi ma langue, ma propre langue, m'oblige à renoncer, je vais essayer de le récupérer par ailleurs. Traduire alors, et particulièrement là, lorsqu'on a affaire à de la poésie expérimentale où forme et contenu sont très intimement liés, où il y a un jeu entre forme et contenu, c'est bien souvent aussi produire dans sa propre langue de l'intraduisible. Je pourrais revenir sur ces aspects, mais quand quelque chose m'apparaît comme intraduisible dans la langue du poème, dans la langue originale du poème, ce que je vais essayer de faire, moi, c'est de faire voir un intraduisible, de créer un intraduisible dans ma langue, même si ce n'est pas exactement au même endroit du poème. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de cette manière de travailler, mais il se trouve que, pour ma part, plus j'avance dans ce travail de traduction, moins cette approche-là me semble parfaitement satisfaisante, ou moins cette approche donc de transposition simple, qui n'est pas simple évidemment, mais du poème, parvient pleinement à me satisfaire. La raison en est que traduire un poème, ce n'est pas seulement ou pas, non, ce n'est pas uniquement traduire du texte. C'est aussi traduire un corps, traduire une voix, traduire un poème qui a une vie antérieure dans l'espace culturel d'où il est issu et qui est appelé à des fins de transmission, je l'ai dit, et de diffusion, à avoir une vie dans l'espace culturel où il sera accueilli. On traduit donc un texte en transition, non seulement d'une langue à l'autre, mais d'un pays à l'autre et d'un État, poèmes existants dans sa langue et dans son aire culturelle, ayant déjà été lus par l'auteur lui-même, ou bien ayant fait l'objet de représentations et d'interprétations diverses, à un autre, poème destiné, on l'espère, c'est de la poésie expérimentale traduite de langue étrangère, le public n'est pas très grand, mais on l'espère, à trouver un public dans son aire d'accueil, à intéresser, à toucher, à émouvoir, voire à inspirer les lecteurs et les poètes, qui sont souvent les premiers lecteurs de cette aire, et destiné aussi à ses fins à être lu, interprété, représenté. Alors dans ce contexte, ce que j'entends par mimésis du geste créateur, c'est assez vaste. Ce que je vous livre aussi ici, c'est une tentative de réfléchir sur ma propre pratique. Donc ce n'est pas quelque chose qui a fait l'objet d'une théorisation stricte. Je vous le livre tel que c'est. Donc cela englobe cette mimésis du geste créateur, le fait de reproduire plutôt qu'un sens un procédé d'écriture, donc de choisir de reproduire le procédé plutôt que le sens qui est en jeu, mais cela implique aussi une forme de liberté et de confiance qui permettent de choisir un mot au détriment d'un autre, parce qu'il sera plus cohérent avec ce qu'on a saisi de la logique d'une œuvre dans son ensemble, et pas seulement de la logique de ce texte-là ou des exigences de cette phrase-là. Cela signifie enfin atteindre, en traduisant, une forme d'énergie et de concentration, voire d'altération de soi, qui fasse de la traduction pas seulement un acte de l'intellect, mais aussi un acte qui touche aux sensibles, aux affects, un acte qui engage tout entier. Et parce que cet engagement, personnellement en tout cas, moi j'en aurai besoin lorsqu'il sera pour moi question de lire le texte à voix haute, le texte que j'aurai traduit, et de le porter devant un public, ce texte. Alors, loin de moi l'idée ici d'opposer ces deux formes de travail, même si elles entrent parfois en tension, mais ce qui me semblait important de pointer ici, c'est que c'est à cette intersection et dans cette tension même que je placerai la nécessité de compromis du travail du traducteur. Non pas, comme on le dit souvent, un compromis entre deux langues, ou entre forme et sens, mais un compromis entre ces deux visées et ces deux compréhensions de la mimésis à l'œuvre dans la traduction. L'idée, donc, ce serait de retrouver dans le moment de la traduction le geste créateur et aussi de retrouver une impulsion, une énergie qui soit propre au traducteur ou, de manière plus élémentaire encore pour le dire, qui soit de l'ordre d'une pulsion. On sait que le texte en langue étrangère appelle parfois, exige d'un lecteur qu'il se fasse traducteur, alors qu'il n'avait pas nécessairement prévu de l'être. La question néanmoins reste de savoir quand on pourra considérer que la pulsion est satisfaite, quand on pourra considérer que le texte est finalement traduit. Et ça m'amusait d'entendre ce matin dire que les traductions du grec n'étaient pas publiées parce que c'était tellement difficile de considérer que la traduction était achevée maintenant et qu'il allait falloir la laisser partir. Mais quand je parle de ça, donc de pulsion créative ou de geste créateur, je n'écris pas seulement quelque chose d'organique ou un processus qui va avoir lieu ou ne va pas avoir lieu. Ce que j'essaie aussi de dessiner, c'est une méthode de travail personnel que j'essaie d'affiner de texte en texte. Je dois préciser ici, je traduis de la poésie principalement. Je ne gagne pas ma vie en traduisant de la poésie, ce qui veut dire que je peux passer un an sur un texte, j'ai ce temps, et c'est essentiel évidemment. Je parlerai tout autrement si mes revenus mensuels dépendaient de la manière dont je traduis les textes, parce que je serais obligée de traduire beaucoup et vite. Ce qui n'est pas mon cas. Donc, lorsqu'on se trouve confronté à un recueil entier à traduire, il est naturel, quelle que puisse être l'affinité qu'on entretient avec l'auteur du texte, que certains poèmes vous appellent, donc que cette pulsion traductive soit là dès le départ, et que d'autres vous appellent moins. Il me semble qu'il faut lire et relire un texte, se confronter à cette simple lecture, s'imprégner du texte, sans chercher nécessairement à le comprendre, sans chercher nécessairement d'abord à l'analyser, jusqu'à ce que le texte, par une forme de mûrissement, puisse être prêt à être traduit. Donc avant de traduire un texte, je vais le lire indéfiniment, je vais passer par une étape de recherche lexicale, et puis je reviens encore avec le texte où tout est élucidé, plus ou moins, en le relisant, et ensuite, je vais essayer de le traduire d'un jet, de manière concentrée, et j'écris de la même manière. Je laisse mûrir, et ensuite je traduis. Et une fois que j'aurai ce texte en français, là, le travail commence, pour ainsi dire. Là, je vais pouvoir commencer à me poser des questions. Est-ce que j'ai compris le texte que je viens de traduire et donc de faire des recherches, de faire des comparaisons, etc. Une telle proximité avec le texte suppose aussi qu'on tente de retrouver, je l'ai dit, un état qui serait proche de celui de l'auteur au moment de la création. Alors, c'est illusoire, évidemment. Et quand j'ai, par exemple, appris que Friederike Mayröcker, donc que j'ai traduite et dont je vais parler aujourd'hui, qui est une poétesse viennoise, autrichienne, encore vivante actuellement, et une figure majeure de la poésie en Autriche. Donc quand j'ai appris que Friederike Mayröcker avait écrit Scardanelli le plus souvent à l'aube et en écoutant à très fort volume des concertos de Bach, je n'ai pas pour autant cessé de traduire de nuit dans un silence absolu. La mimésis ou l'imitation, ne joue pas là. En revanche, écoutez John Dowland, écoutez Schubert, écoutez Maria Callas, qui sont tous cités dans le recueil, faisait tout autant partie de mon travail que de rechercher des traductions françaises de citations de Hölderlin dont le recueil est tissé. Donc ce que je recherche, en fait, c'est une forme d'immersion dans l'univers de création de l'auteur, même si elle est, cette immersion, en partie seulement reconstruction. Immersion qui a dû passer également, pour Scardanelli, par une escale à Tübingen, une visite de la tour du menuisier Zimmer et de la pièce où Hölderlin a passé les 30 dernières années de sa vie. On vit dans le temps long qui est le mien, de la traduction avec les textes que l'on traduit, et on vit aussi un peu avec leurs auteurs, avec la représentation que l'on peut avoir de leur travail. Concernant Friederike Mayröcker, toujours, qui est entourée de plusieurs personnes particulièrement bienveillantes, elle est très très âgée, et moi j'aurais eu une répugnance à lui écrire directement, mais il y a beaucoup de personnes qui font le relais autour d'elle. Donc j'ai pu également lui poser des questions et déduire de certaines des réponses qu'elle m'avait faites les priorités qu'elle place dans l'écriture du texte. Et par exemple, j'ai constaté qu'entre plusieurs variantes que je lui proposais, c'était lors de la traduction d'une prose avant Scardanelli, d'une prose poétique plus longue, elle privilégiait systématiquement la variante qui frappait l'oreille ou qui allait entrer en écho avec d'autres termes du texte, bien plus que celle qui rendait au plus près le sens de l'original. Donc c'est elle-même en fait qui m'encourageait vers une forme de liberté. Maintenant, je vais revenir à une question que j'ai soulevée brièvement, c'est la question de savoir quand on peut considérer que le texte est traduit, que la traduction est achevée. Et une réponse pour moi, et c'est ici que je rejoins la thématique de cet après-midi, pour moi, le texte existe, le texte traduit existe comme texte français quand il résiste, ça rentre un peu en tension avec ce que vous disiez, mais pas fondamentalement, je crois, quand il résiste à la lecture à voix haute. La lecture à voix haute, dans ma pratique de traduction, c'est un test qui me permet d'entendre en français le texte écrit. C'est la dernière étape d'un long processus, un processus dans lequel la voix même de l'auteur, sa propre lecture de ses textes, joue aussi un rôle important. C'est vrai, alors là, de manière flagrante pour un poète comme Ernst Jandl, qui est un poète autrichien qui se trouvait être aussi le compagnon de Mayröcker, qui écrit en partie ses textes en vue de leur lecture sur scène. Mais c'est aussi vrai pour Friederike Mayröcker, dont la lecture, le plus souvent assise dans son grand âge, à voix presque murmurée, intime et intense, a contribué à faire naître l'immense ferveur dont elle jouit aujourd'hui en Autriche. Et ce qui fait que chacun de ces livres, on a parlé du manque de public, etc. En Autriche, toute parution d'un livre de Mayröcker fait la une des journaux. C'est un événement culturel, réellement. Il y a une foule de gens d'âges divers qui se pressent à ces lectures. Voilà, si vraiment il y a un terme pour décrire ce qu'elle inspire, et je ne pense pas que ce soit seulement de la fierté nationale, c'est la ferveur. Donc... Évidemment, entendre un poète lire n'est pas toujours possible, on n'a pas toujours accès aux archives, c'est parfois décevant, mais cela peut se révéler inestimable lorsque le poète lit bien. Qu'est-ce que c'est qu'un poète qui lit bien ? C'est un poète qui vous fait comprendre quelque chose de son poème quand vous l'écoutez lire, quelque chose que vous n'auriez pas compris avant. Moi, il y a des textes de Jandl que je lisais comme des textes d'une noirceur absolue, et en l'entendant les lire, je riais. Donc évidemment, ça modifie ce qu'on va faire dans la traduction. Et cela permet aussi d'entendre sa diction du poème, ce qui peut donner des indications précieuses, particulièrement concernant la coupe du vers. Alors là, c'est un point d'importance chez Mayröcker, puisqu'elle alterne les œuvres en prose et les recueils. Et c'est aussi important dans un recueil comme Scardanelli, qui commence par des petits textes en vers et qui se termine par des longs flots qui ressemblent plus à de la prose justifiée, non justifiée qu'à du vers. Et ce qui est frappant, c'est que la voix de Mayrecker ne marque pas l'enjambement. Elle ne suit pas du tout la découpe du vers, elle épouse l'élan de la phrase, ses répétitions, ses reprises, ses ruptures, avec tant de délicatesse et de subtilité qu'on ne saurait pas, à la simple écoute, marquer ces césures-là qui parfois se perdent dans la continuité du poème. Mais c'est cette écoute qui m'a enjointe, moi, alors que ce n'était pas du tout conforme à ma tendance première, qui m'a enjointe donc, lorsque parfois l'enjambement posait un réel problème, à plus de souplesse et à plus de liberté dans ma traduction, sachant, alors c'est peut-être une autorisation ou une facilité, mais sachant que, en me disant que si elle ne donnait pas à entendre cette pause, c'est peut-être que parce qu'elle ne revêtait pas une importance si fondamentale. Ce que je voudrais dire ici, c'est que dans le travail de traduction, tel en tout cas que je le pratique, il n'y a pas de séparation nette entre l'oral et l'écrit. L'oreille est pour ma part le premier organe par lequel je perçois le poème. Je l'écoute d'abord, je me le répète, et finalement c'est aussi pour l'oreille que je vais le traduire, l'oreille interne du lecteur qui lit silencieusement, ou celle du futur auditeur qui en écoutera une lecture à voix haute. Et comme il se trouve, je l'ai dit, que la tâche de la lecture à voix haute me revient le plus souvent, il est bien naturel que ce soit le dernier test à passer pour pouvoir considérer que la traduction est achevée. Mais de toute façon, la diction future du poème rentre déjà en ligne de compte dans mes choix traductifs et même dès l'écriture de ce premier jet dont je vous parlais. De fait, lire un poème à voix haute ou l'entendre intérieurement tandis qu'on le traduit, offre aussi un critère assez sûr, quoique absolument subjectif et empirique, de ce que peut supporter la langue d'accueil. Lorsqu'on traduit une langue poétique, on se trouve confronté en fait à une double étrangeté. Le fait de traduire une langue étrangère, à moins d'être parfaitement bilingue, ce qui est rare et ce qui n'est pas mon cas, et le fait de traduire une langue atypique, qui se libère de normes pour inventer ses propres règles et sa propre cohérence. Et le risque, c'est que dans le passage d'une langue à l'autre, dans la reproduction de ces distorsions dans une autre langue, la cohérence de la langue poétique, sa justesse et sa fluidité se perdent. Donc pour ma part, je travaille d'abord toujours, toujours au plus proche du texte d'origine, de son rythme, de sa syntaxe, parce que c'est aussi ce rythme et cette scansion que je tente de traduire et de donner à entendre à l'échelle du poème. Pour Scardanelli, qui présente pourtant d'autres difficultés, une de mes préoccupations majeures, c'est de ce fait porter sur l'ordre des mots. Je vais vous donner un bref exemple. Il y a un poème qui se termine par ces mots. Donc il est question d'une brebis, et je vous le dis en allemand, « Dessen Schäfer ich war im Traum », dont j'étais le berger, « Dessen Schäfer ich war im Traum », en rêve. Donc c'est le mot rêve, Traum, qui termine le poème, et c'est Lebenstraum, rêve de vie, qui termine le recueil. Et dans ma traduction, j'avais donc naturellement écrit « La brebis dont j'étais le berger, en rêve », sans virgule. Et cette traduction-là, quand je l'ai lue, alors là, c'est pour ça que je vous dis que c'est complètement subjectif, ce dont j'étais le berger en rêve, il y a quelque chose pour moi qui ne fonctionnait pas. Je tiquais, je n'y arrivais pas. Et donc j'ai cherché et j'ai déplacé ce en rêve à beaucoup d'endroits de la phrase, je vous passe tous les... pour essayer de trouver là en français, et sachant que je m'éloignais de ce qui était fait par l'auteur, mais sachant aussi que l'ordre des mots en allemand et en français, on dit souvent que c'est l'ordre inversé. Donc en tout cas, pour essayer de retrouver quelque chose en français qui soit de l'ordre d'une fluidité, et c'est de l'ordre d'une fluidité en tout cas en allemand. Un texte donc, que l'on a laissé reposer assez longtemps et que l'on reprend à voix haute, signale souvent de lui-même ses faiblesses, ses moments où la fluidité se rompt, où la langue est trop tiraillée et où l'on doit donc réajuster la phrase et la syntaxe pour qu'elle retrouve, si c'est une particularité dans l'original, plus de souplesse. Naturellement, cette méthode n'est pas infaillible, mais je la pratique en vue là, de la double destination du texte. Ça va être mon avant-dernier point, cette question de la double destination du texte. Parce qu'une distinction s'impose, évidemment, à mes yeux, entre le texte tel qu'il va paraître dans le livre, figé par l'écrit, et le poème traduit, lu ensuite à voix haute. Dans un recueil, il est essentiel, je ne vais pas répéter à chaque fois à mes yeux, mais vous avez compris que je parle depuis mon point de vue et pas de manière normative, donc il est essentiel que tout poème tienne et fonctionne comme texte autonome et pas seulement comme traduction d'un texte source. Le poème en français n'est pas là pour aider à comprendre ou pour éclairer le sens du poème en allemand. Il peut et doit exister sans original, dont, nous l'avons vu, il n'est de toute façon pas strictement la copie. C'est pourquoi la présence du texte original en regard du texte traduit ne me semble pas indispensable, même si c'est une question qui revient systématiquement dans toute lecture en librairie. Pourquoi, pourquoi est-ce que le recueil n'est pas bilingue? Et la réponse, c'est mais est-ce que le livre d'original, est-ce que le livre, c'est une réponse absurde, le livre d'origine n'est pas bilingue non plus. On entre, à mon sens, même si j'adore les livres bilingues par ailleurs, pour d'autres raisons. Donc on entre dans le recueil comme dans un texte monolingue et non pas comme dans une galerie au miroir, et on offre au lecteur la possibilité de faire l'expérience de la lecture du recueil dans sa langue propre. Et l'illusion doit être au moins presque parfaite. Donc ici, le recueil en français tel qu'il a été publié pour le lecteur francophone est accompagné d'un appareil critique qui est assez léger. Et il ne laisse finalement pas, il n'y a pas en regard les textes en allemand. Le seul point sur lequel j'ai hésité par moment, parce que c'était difficile et aussi parce que c'était artificiel, c'était la question des traductions, des citations de Hölderlin, qui sont très présentes dans le texte allemand et qui sont identifiées par un lecteur germanophone comme citation de Hölderlin. J'aurais aimé, ça aurait été tellement plus facile, ça aurait été beau aussi, je pense, j'aurais aimé parfois les laisser en allemand, dans le texte français. Je ne l'ai pas fait, j'ai recherché les citations originales. Et si je ne l'ai pas fait, c'est aussi tout simplement parce que le texte de Mayröcker est écrit en plusieurs langues poétiques, mais dans une seule langue, l'allemand. Et donc j'ai gardé cette unique langue en français. L'idéal, pourtant, à mes yeux, c'est exactement le contraire de ce que j'enseigne en cours de version. Donc l'idéal, c'est d'une certaine manière que le texte français soit comme un calque. Alors calque, vous le savez, c'est de cette manière qu'on désigne l'imitation maladroite de forme ou de tournure qui, d'une langue à l'autre, ne passe pas, en fait, et où on a besoin d'un réagencement. Moi, calque, je l'entends dans le sens original d'une feuille transparente. Et l'idée, ce serait qu'à la fois, on puisse lire le texte, comme je vous l'ai dit, en toute autonomie, mais que par derrière, ou que d'une certaine manière, il y ait le texte d'origine, dans sa langue d'origine, qui soit encore visible, qui transparaisse. Et je vais vous donner un exemple, et c'est cet idéal-là qui dicte aussi certains de mes choix de traduction. Donc, un exemple, je sais aussi qu'il y a des étudiants ici de Madame Zahnmann et que vous avez un peu travaillé sur ce poème. Donc, ce sont les deux premiers vers. J'ai encore un petit peu de temps. D'accord. Ce sont les deux premiers vers du premier poème du recueil. Ces deux premiers vers, je vous les lis et je vais les expliquer. Diese Prise Hölderlin im hellroten Hölderlin-Zimmer. Donc, diese Prise, Prise, c'est la pincée. Comme on dit d'une prise de sel, Hölderlin, donc là on comprend que Hölderlin vient qualifier le terme, ce serait comme un complément du nom. Im hellroten, rouge clair, qui est resté moi dans mes épreuves jusqu'au dernier moment, rouge sombre, mais que j'ai modifié in extremis. Donc rouge clair, Hölderlin Zimmer en un mot, Zimmer c'est la pièce ou la chambre, pareil, donc ici de nouveau un génitif, la chambre ou la pièce de Hölderlin. Alors mon collègue très estimé Jean-René Lassalle avait traduit ce poème pour le recueil Métaux voisins, qui est une anthologie de poèmes de Friederike Mayröcker, et il a choisi Diese Prise Hölderlin, cette pincée de Hölderlin, dans la pièce ou chambre hölderlinienne, avec un adjectif. Et il se trouve, pour ma part, que j'ai gardé la pièce ou la chambre Hölderlin, la pièce Hölderlin, la chambre Hölderlin, sans complément du nom, donc là vous voyez bien le calque, vraiment, et puis que je n'ai pas pu me résoudre à cette pincée. Alors j'ai je ne pouvais pas m'y résoudre, je n'ai pas vraiment réfléchi pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi maintenant, à la réflexion, c'est parce que pincer, c'est, vous savez, ce que vous tenez avec les deux doigts comme une pince, c'est quelque chose que vous pouvez saisir. Alors que prise, mais là les germanophones me contrediront ou pas, prise pour moi a quelque chose de complètement volatile. Et même si ça peut se tenir avec, même si ça peut être dans les deux mains, il y avait dans prise quelque chose qui a échappé. C'était la quantité infime, la présence indiscernable justement de Hölderlin dans ces lieux qu'il a quittés des siècles plus tôt, mais qui sont restés en l'état. Donc j'ai renoncé à la pincée de Hölderlin et j'ai cherché le sillage, j'ai cherché la trace, j'ai cherché et je suis arrivée sur la prise. Parce qu'on parle d'une prise de tabac, parce que si la prise dans, alors là on recherche dans le lexique, la prise ou l'emprise, donc c'est cette idée d'une présence qui va vous prendre, et dans une discussion, c'est aussi la prise photographique, mais j'y avais absolument pas pensé, c'est aussi la prise, et ça ne fonctionne pas du tout, mais en tout cas, voilà, j'ai gardé ce mot de prise, ce calque là, lexical, et je voulais éviter cette prise de Hölderlin, parce que Hölderlin, pour moi, ce n'est pas une quantité, ce n'est pas un génitif de quantité. Je n'ai même pas pensé à l'adjectif. Et voilà. Et donc là, garder ce mot, finalement, m'a obligée à bouleverser la ponctuation du poème, ce qui n'est pas rien, ce qui est un geste d'intervention assez fort, avec un double point, cette prise de point Hölderlin. Et ce que j'aimais dans ce choix, c'est qu'à la fin du poème, on avait Hölderlin qui surgissait, sans être complément du nom, sans être adjectif, c'était Hölderlin, comme dans le texte allemand. Alors, brièvement, donc. Lors d'une lecture publique, toutes ces questions-là, cette question du calque ou du texte qui transparaît, ne se pose pas, parce qu'on a la possibilité souvent de faire entendre la voix de l'auteur. C'est ce que j'avais fait, là juste pour vous donner un exemple, lors de la parution de l'anthologie d'Ernst Jandl, on était dans une lecture à deux voix, et il y a beaucoup d'archives sonores et d'archives visuelles de Jandl lisant. Donc on avait, j'étais avec Françoise Fabretto, qui est l'éditrice de l'Atelier de l'Agneau. On lisait côte à côte, parfois à deux voix, ou parfois nous répondant l'une à l'autre. Et derrière nous, on avait Ernst Jandl affiché en grand, qu'on pouvait entendre, qu'on pouvait voir. Donc c'était réellement une lecture à trois voix en sa présence. Et pour finir, je répondrai à des questions éventuelles sur la lecture ou les lectures de Mayrhöcker, mais pour finir, ce que je tenais absolument à dire, c'est qu'une manière aussi, qu'un des liens entre traduction de poésie et transmission, c'est le fait que faire traduire la poésie, c'est une manière et peut-être la meilleure manière, à mon sens, de la transmettre. Bien souvent, c'est peut-être un biais culturel, on enseigne la lecture de manière normative, en entraînant les élèves puis les étudiants à identifier des figures de style, des figures rhétoriques, ce qui est très bien, hein, mais sans les encourager à s'engager émotionnellement, affectivement, j'allais presque dire physiquement, dans la lecture du texte. Sans les encourager non plus nécessairement à formuler leurs propres questions sur le texte. Si les méthodes d'analyse textuelle peuvent être utiles et parfois indispensables à la traduction et à la transposition du texte dans une autre langue, l'exercice de la traduction peut aussi être le moment, pendant le cours ou dans d'autres contextes, où vont surgir d'autres questions. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Comment liriez-vous ce texte à voix haute? Qu'est-ce que vous comprenez de cette image? Quelles sont les différentes possibilités pour traduire ce mot? Pourquoi? Etc. etc. Donc, il y aurait ici une forme de transmission de la poésie qui ne passerait pas par l'écoute passive du texte lu, ni par l'élucidation ou l'explication d'un texte, mais par un geste d'appropriation de ce texte même, dans et par l'exercice de la traduction.